Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Emmanuel Macron en marche pour une destination toujours inconnue. Le ministre de l'économie est en meeting ce soir à Paris, ce qui énerve au plus haut point Manuel Valls. Nous retrouverons Stéphane Robert à la mutualité dans un instant. L'État français condamné pour avoir mal surveillé le djihadiste Mohamed Merah. Les précisions à suivre de Florence Turme. Malgré Dallas et les bavures policières, Barack Obama refuse de conclure à la division de l'Amérique sur la question raciale. Le président américain était au Texas, tout à l'heure, dans ce journal, la correspondance de Charlotte Alix. Colère et déception en Espagne et au Portugal après la procédure de sanctions financières enclenchée par Bruxelles pour dérapage budgétaire. Le reportage à suivre de Laxmi Lota au Parlement européen. Il est temps que tout cela s'arrête. La petite phrase de Manuel Valls aujourd'hui en dit long sur l'agacement du Premier ministre face à l'activisme d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie qui est en meeting ce soir à la Mutualité à Paris, son premier depuis le lancement de son mouvement En Marche le 6 avril dernier à Amiens. Emmanuel Macron qui expliquait dans le journal Le Monde, je cite, « construire une offre politique nouvelle qui n'est pas celle de François Hollande ». Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir, salut.
Alors, vous suivez ce meeting d'Emmanuel Macron à la Mutualité. Le ministre de l'économie a-t-il dévoilé ses intentions pour 2017?
Non, pas encore, pas vraiment, hein, mais on a quand même quelques indices. C'est le député du Finistère, Richard Ferrand, fidèle soutien d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, qui a résumé en ces termes ce que représente ce meeting ce soir. Il faut que l'histoire commence, a-t-il expliqué. On peut clairement y voir comme un écho aux déclarations de Manuel Valls en toute fin d'après-midi. Il est temps que l'histoire s'arrête, a dit le Premier ministre en parlant d'Emmanuel Macron. Eh bien non, pour le ministre de l'économie, il semble plutôt qu'on a là quelque chose qui commence. Personne n'aurait imaginé il y a 4 mois que nous serions tous là ce soir à la Mutualité. Alors imaginez où nous serons dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, a dit Macron, donnant ainsi rendez-vous à ses soutiens pour un peu plus tard. Parce que l'important, a-t-il ajouté, c'est d'abord le projet. Et ce projet doit partir d'un constat. Le constat que le monde est engagé dans une grande transformation, transformation politique, numérique, écologique, et notre système, nos institutions construites au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont en train de craquer de toutes parts. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est donc d'accompagner tous ces changements. Reste maintenant à savoir comment. Pour l'instant, ça semble encore un peu brouillon.
Stéphane Robert en direct de la Mutualité, merci. Cette information embarrassante pour François Hollande révélée par le Canard Enchaîné. Selon l'hebdomadaire, le coiffeur personnel du président touche 9 895 euros bruts par mois pour s'occuper de la chevelure du chef de l'État. Le Canard publie un document présenté comme le contrat d'engagement du coiffeur, un CDD de 5 ans signé au début du quinquennat. Le journal assure que l'Élysée confirme sur toute la ligne ces informations. C'est une décision inédite qui va relancer le débat sur les responsabilités politiques dans la lutte contre le terrorisme en France. Le tribunal administratif de Nîmes juge en effet l'État en partie responsable de la mort d'Abel Chenouf, l'un des soldats tués par Mohamed Merah le 15 mars 2012 à Montauban. Selon le tribunal, il y a eu faute dans la surveillance de l'islamiste toulousain, ce qui a compromis les chances d'empêcher un attentat, Florence Turme.
Oui, le tribunal pointe clairement la responsabilité des services de renseignement sans aller toutefois jusqu'à la qualifier de faute lourde comme le souhaitait la famille d'Abel Chenouf. En reprenant la chronologie des faits, les juges rappellent que Mohamed Merah était connu de ces mêmes services depuis 2006, qu'il faisait l'objet d'une fiche S, qu'il était en contact avec différentes personnes radicalisées. Malgré cela, il a réussi à quitter la France pour le Pakistan au cours de l'été 2011. À son retour en septembre, il est convoqué à la direction de Toulouse et à l'issue de l'entretien, tout suivi est abandonné. Le tribunal ne va pas jusqu'à dire qu'une surveillance adéquate aurait permis d'éviter les futures actions terroristes de Mohamed Merah, mais le défaut de surveillance a facilité son forfait, empêché la détection de tout signe annonciateur. Il faut rappeler que 4 jours avant l'assassinat d'Abel Chenouf, Mohamed Merah avait déjà fait une première victime. Les juges soulignent aussi la difficulté des tâches imparties aux services de renseignement, mais la décision est parfaitement claire. C'est une faute manifeste dans leur mission de prévention des actions terroristes et de surveillance des individus radicaux, ce qu'avait d'ailleurs reconnu publiquement Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur en 2013.
Alors Florence, après cette décision du tribunal administratif de Nîmes, des victimes des attentats du 13 novembre dernier à Paris annoncent leur intention de porter plainte contre l'État.
Oui, la décision du tribunal administratif de Nîmes vient incontestablement d'ouvrir une brèche. L'avocate de 17 familles de victimes compte elle aussi déposer un recours. Elle estime que le rapport parlementaire met en évidence la responsabilité de l'État et des services de renseignement français. Sami Amimour, l'un des tueurs du Bataclan, avait ainsi réussi à partir pour la Syrie alors qu'il était visé par une interdiction de sortie du territoire. La requête n'est pas encore déposée, mais la famille d'Abel Chenouf, elle, ne se contentera pas de sa première victoire judiciaire. Elle a déposé plainte au pénal pour savoir qui, au sein des services de renseignement français, avait donné l'ordre de cesser la surveillance de Mohamed Merah.
Florence Turme, merci. Barack Obama est à Dallas ce soir pour rendre hommage aux 5 policiers abattus par un extrémiste noir la semaine dernière. Exercice difficile pour le président américain alors que les manifestations contre les bavures policières mortelles se multiplient. Barack Obama a pris la parole lors d'une cérémonie œcuménique. On retrouve notre correspondante aux États-Unis, Charlotte Alix. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Charlotte, tout à l'heure à Dallas, Barack Obama finalement a relativisé les tensions raciales qui diviseraient l'Amérique.
Oui, tout en reconnaissant la colère et la douleur que les événements de la semaine dernière avaient suscité, la mort des 5 policiers donc, mais aussi celle des 2 hommes noirs tués par la police à Baton Rouge et à Saint-Paul. Mais comme il y a quelques jours, il a répété effectivement un message d'optimisme. Nous ne sommes pas aussi divisés que cela. Nous devons, a-t-il dit, rejeter le désespoir, ce désespoir de voir un jour les choses s'améliorer. Et pour cela, il faut, d'après lui, que les Américains soient honnêtes sur ce qui se passe. Non, tous les policiers ne sont pas racistes, a-t-il dit à l'adresse des manifestants qui défilent contre les violences policières, et ceux qui mettent tous les policiers dans le même sac font du tort à leur cause. Mais a-t-il ajouté à l'adresse des policiers, cette fois, les relents de l'esclavage et de la ségrégation n'ont pas entièrement disparu et les discriminations raciales persistent, y compris de la part de certains officiers. Il a appelé les uns et les autres à faire l'effort d'essayer de se comprendre. L'unité, c'était bien le mot que le président américain et tous les responsables politiques qui se sont succédés à la tribune voulaient qu'on retienne aujourd'hui en cette période d'extrême division. Nous n'avons qu'un pays, a déclaré l'ex-président George Bush, et nous ne voulons pas l'unité dans le deuil ou la peur, mais dans l'espoir. C'était aussi tout le sens du discours de Barack Obama qui appelle à ne pas céder au cynisme.
Charlotte Alix en direct des États-Unis. Merci. Un mot de la campagne présidentielle américaine. Bernie Sanders a annoncé tout à l'heure son ralliement officiel à Hillary Clinton. Hillary Clinton qui avait battu Bernie Sanders dans la primaire démocrate. C'est officiel. Les ministres des Finances de la zone euro ont déclenché aujourd'hui une procédure de sanctions à l'encontre de l'Espagne et du Portugal. 2 pays coupables de dérapage budgétaire. Les ministres affirment que Madrid et Lisbonne n'ont pas pris les mesures nécessaires pour corriger leur déficit. Le Premier ministre portugais de gauche, António Costa, dénonce une décision injustifiée et contre-productive. En Espagne, le gouvernement conservateur évoque des hausses d'impôts pour réduire ses déficits. À Bruxelles, les eurodéputés espagnols et portugais regrettent cette procédure de sanction. C'est un reportage de Laxmilota.
La Commission européenne a 20 jours pour proposer des sanctions à l'encontre de l'Espagne et du Portugal en dérapage budgétaire. Pour José Faria, eurodéputé portugais du groupe des libéraux, c'est une décision injuste.
L'espérance que les Portugais avaient de sortir après tant d'années de souffrance, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut leur dire? Rien. On s'est soumis à un régime très difficile, très dur, et maintenant on ne gagne rien avec ça. Mon pays va être dans la liste noire, si vous voulez. Pourquoi ? Mais pourquoi ça nous arrive ?
Il faut faire attention à ne pas tout mettre sur le dos de l'Union européenne, prévient pour sa part Aider Gardiazabal, eurodéputé espagnol socialiste.
C'est une décision qui fait de l'euro, mais c'est une conséquence des politiques du gouvernement du Parti populaire. J'espère que chacun va prendre sa responsabilité et nous savons qui est le responsable. Et ce n'est pas encore une fois l'Europe. On utilise toujours l'Europe comme le faux ami ou l'ennemi même des citoyens. Ce n'est pas du tout le cas.
L'Espagne et le Portugal ont 10 jours pour convaincre les pays de l'UE qu'ils vont améliorer leur situation budgétaire et demander l'annulation des possibles sanctions.
Laxmilota au Parlement européen. Catastrophe ferroviaire en Italie. Au moins 22 morts dans la collision frontale aujourd'hui entre 2 trains dans la région des Pouilles. L'enquête devra dire pourquoi ces 2 trains circulaient au même moment sur une voie unique en sens inverse. Un mot de la météo. Demain, le temps sera encore bien instable avec une accalmie arrivant par l'ouest. Les passages d'averses rythmeront la journée sur une grande partie du pays. Seules les régions méditerranéennes garderont un temps largement ensoleillé. Les températures maximales seront inférieures aux normales de saison. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.